Vilien, aujourd'hui je continue les fondements de la culture indienne, la renaissance de l'Inde, le chapitre 1. Cette aspiration se retrouve partout. Les idéaux du mental indien ont tout embrassé. Dans l'esprit indien, l'affirmation suprême de ses droits, sa soif d'indépendance, de maîtrise, de possession est non moins sublime. Son abnégation, sa dépendance, sa soumission, son don de soi. Dans la vie quotidienne, l'idéal d'une existence fastueuse et l'idéal de la pauvreté furent toutes deux poussées à l'extrême. Richesse opulente d'un côté et de l'autre dénuement satisfait. Ses intuitions étaient assez claires et courageuses pour ne pas l'aveugler sur ses idées les plus chères et ses strictes habitudes de vie. Astreint à faire un stéréotype de la caste, le symbole de son cadre social, jamais il n'oublia complètement, comme l'esprit de caste y est enclin, que l'âme et le mental humain transcendent cette distinction. Car il a vu, il a su voir, dans l'être humain le plus vil, la divinité, Narayana. Il ne soulignait les différences que pour s'en détacher et les nier. Si en fin de compte les impératifs et les contextes politiques contraignirent à abuser du principe monarchique et à décréter une royauté du droit divin, à abolir les anciennes cités-États républicaines et fédérations indépendantes, les jugeant trop centrifuges, et par conséquent, il ne put instaurer la démocratie. L'esprit démocratique, par contre, ne lui fit pas défaut. Il l'appliqua dans les villages, les conseils, les municipalités, au sein de la caste, et fut le premier à affirmer la divinité du peuple, interpellant le souverain au fait de sa puissance. Ô roi, qui es-tu sinon le premier des serviteurs du démos? Il concevait l'âge d'or comme une libre anarchie spirituelle. Son absolutisme spirituel ne put le retenir. Durant une longue période d'explorer la vie des sens et ses jouissances, et là encore, il rechercha la richesse suprême du détail sensuel, la profondeur et l'intensité de l'expérience sensuelle. Il fut cependant noté que cette quête des expériences les plus extrêmes n'entraîna jamais le désordre et la période la plus hédoniste n'offre rien de comparable avec la corruption débridée qu'une tendance analogue a plus d'une fois produite en Europe. Le mental indien, en effet, n'est pas seulement spirituel et moral. Il est intellectuel et artiste. Or, les lois de l'intellect, comme les harmonies de la beauté, sont également hostiles à l'esprit du chaos. Dans tout extrême, l'esprit indien recherche une loi. Et dans ses applications, une règle, une mesure, une structure. Par ailleurs, cette exploration des limites est contrebalancée par une caractéristique plus enracinée encore, le besoin d'une synthèse. Si bien qu'après avoir poussé jusqu'à son ultime conclusion l'examen de chaque motivation, ce mental fait un retour sur lui-même pour intégrer les connaissances acquises, créant ainsi une harmonie et un équilibre dans l'action et les institutions. L'équilibre et l'harmonie auxquels parvinrent les Grecs, par une sobriété délibérée, L'Inde y atteignit, par son sens de l'ordre intellectuel, éthique et esthétique, et par le besoin de synthèse de son mental et de sa vie. En période de décrue, le présent n'est qu'un dernier dépôt du passé. Et il faut assurément que ce soit le point de départ de l'avenir. Mais dans ce présent, tout ce qui fut le passé de l'Inde est latent. Cela n'est pas détruit, mais s'apprête à revêtir de nouvelles formes. Le déclin fut le reflux d'un esprit créateur impossible à comprendre. Il n'est vu en pleine gloire à marée haute. La renaissance, c'est le retour de la marée, un même esprit. Vraisemblablement l'animera, mais sous des aspects sans doute fort différents. Pour juger des possibilités de cette renaissance des pouvoirs qu'elle saura révéler et la dimension qu'elle prendra, nous devons donc nous défaire de l'idée selon laquelle la tendance à l'abstraction métaphysique est la clé de l'esprit indien. La totalité unique qui inspire toutes ses mélodies. Sa véritable note dominante, c'est l'aspiration à la réalisation spirituelle, nullement gravée en une blanche monotonie, mais innombrable en ses facettes, en ses couleurs. Aussi souple est disponible qu'intense dans son registre le plus haut. Constante, récurrente, elle domine tout, inspire tout, supporte tout. Le premier âge de la grandeur indienne fut un âge spirituel qui la vit rechercher passionnément la vérité de l'existence, tant physique que psychique, au moyen du mental intuitif et par l'expérience et l'interprétation intérieure. Certes, caractéristique initiale, jamais elle ne l'a perdue. Bien au contraire, elle n'a cessé de l'enrichir à chaque étape de sa vie nationale par de nouvelles expériences et de nouvelles découverte spirituelle. Même à l'heure du déclin, c'est la seule chose qu'elle n'aurait jamais pu perdre. Mais cette aspiration spirituelle ne s'élance pas seulement vers les hauteurs, vers l'abstrait, le caché, l'intangible. Elle rayonne vers le bas et l'extérieur, pour embrasser la multiplicité de la pensée, la richesse de la vie. C'est pourquoi la seconde, la longue époque de la grandeur indienne, fut un âge de l'intellect, un sens d'esthétie, de la volonté dynamique dans l'action qui éclairée pouvait exprimer et gouverner la vie à la lumière de la vérité spirituelle. Après l'âge de l'esprit vint celui du Dharma. Après les Védas et les Upanishads, les siècles héroïques de l'action, l'édification sociale, l'élaboration de différents modèles, l'âge de la pensée et de la philosophie. C'est alors que furent fixées dans leurs grandes lignes les formes extérieures de la vie et de la culture indienne qui contenaient déjà en puissance leur développement ultérieur. Trois mouvements de régression ont amorcé le déclin qui suivit. Tout d'abord, nous constatons l'épuisement relatif de cette énergie vitale débordante, la joie de vivre et de créer ses estompes. Et pourtant, même au soir de leur vigueur, ces énergies garderont leur splendeur extraordinaire et ne sombreront que très brièvement dans une torpeur quasi complète. Mais comparée à la grandeur d'autrefois, cette décadence nous paraît à la fois très profonde et progressive. En second lieu, l'ancienne, la libre activité intellectuelle cesse très rapidement. Le mental scientifique et critique s'assoupit, ainsi que l'intuition créatrice. Ceux qui subsistent ressemblent de plus en plus au ressassement des bribes d'une connaissance passée mal comprise. Les formes créées jadis par un grand passé intellectuel ne sont plus que des reliques où le mental et la vie se pétrifient. L'autorité et la règle d'hier se font despotiques, rigides, et résultat inévitable, perdent leur sens et leur esprit véritable. Enfin, si la spiritualité demeure, elle ne brûle plus comme autrefois. De cette même flamme de connaissances larges et claires, mais jette çà et là de brillantes étincelles qui font ressortir certaines vérités spirituelles au détriment des autres, tandis que disparaît l'ancienne et magnifique synthèse. Cet affaiblissement représente un échec dans la grande entreprise qui donne tout son sens à la culture indienne, un arrêt sur la voie qui mène à la parfaite spiritualisation du mental et de la vie. Les débuts furent sublimes, la croissance admirable, mais au moment où elle aurait dû progresser, s'adapter, trouver un nouvel épanouissement, l'ancienne civilisation indienne s'arrêta court, en partie régressa, en partie s'égara. Certes, l'essentiel subsista et subsistera toujours au cœur du peuple indien, et pas seulement dans ses habitudes et sa mémoire. Dans la pratique, cependant, il se recouvrit d'une épaisse fumée de confusion. Il n'est pas dans notre propos d'en analyser ici les causes internes ou externes, mais le fait est là. Telle fut la raison de l'impuissance momentanée du mental indien face à des conditions nouvelles et sans précédent. L'énergie de vie, heureusement, ne s'était pas assoupie. Elle n'était pas morte, et puisqu'elle survivait, le mal portait en lui-même son propre remède. Alors je répète, l'énergie de vie, heureusement, ne s'était pas assoupie. Elle n'était pas morte, et puisqu'elle survivait, le mal portait en lui-même son propre remède. Bien que responsable d'une destruction et d'un pourrissement provisoire, l'assaut brutal de la vie et de la culture européenne entraîna néanmoins trois sursauts nécessaires. Il raviva l'élan intellectuel et critique endormi, réhabilita la vie et éveilla le désir d'une nouvelle création. Il confronta l'esprit indien à de nouvelles conditions, à de nouveaux idéaux, à la nécessité urgente de les comprendre, de les assimiler et de les conquérir. L'esprit national porta un regard neuf sur la culture traditionnelle et en retrouva le sens et la portée, mais en même temps, il la vit dans sa relation avec la connaissance et les idées modernes. c'est de cette vision et de ce souffle nouveau que surgit la Renaissance indienne. Et c'est cela qui déterminera ses tendances futures. Sa première tâche, sa tâche primordiale, sera de recouvrer sa connaissance et son expérience spirituelle d'autrefois, dans toute leur splendeur, leur profondeur, leur plénitude. Infuser cette spiritualité à des formes nouvelles en philosophie, dans la littérature, l'art, la science, la connaissance critique sera sa seconde mission. La dernière et la plus difficile consistera à traiter les problèmes actuels de façon originale à la lumière de l'esprit indien et à trouver une formule permettant la synthèse élargie d'une société spiritualisée. La contribution de l'Inde à l'avenir de l'humanité se mesurera au succès qu'elle remportera dans ces trois domaines. L'esprit est tout en haut, un infini de vérité. La vie en bas, un infini de possibilités qui veulent croître et découvrir leur propre vérité et leur actualisation en s'éclairant des vérités de l'esprit. Notre intellect, notre volonté, notre être éthique et esthétique jouent le rôle des réflecteurs et des médiateurs. L'Occident exagère l'importance de la vie et invite aussi et aussi peu, souvent que possible, les pouvoirs supérieurs à la stimuler, à l'embellir. C'est sa méthode. L'Inde suit une autre, qui consiste au contraire à découvrir d'abord l'esprit qui est au-dedans et plus haut, les intensités secrètes des pouvoirs supérieurs, à maîtriser la vie d'une façon ou d'une autre afin de rendre réceptive à l'esprit, lui permettre de l'exprimer et se faisant accroître ses pouvoirs. En ce qui concerne l'intellect et la volonté d'une part, l'être éthique, esthétique et émotive d'autre part, elle tend certes à en explorer les possibilités mentales ordinaires, mais elle cherche aussi à les porter vers la lumière et le pouvoir supérieur de leurs propres intuitions les plus hautes. Or, cette renaissance de l'Inde aura précisément pour mission véritable d'amener l'esprit, cette vision supérieure de la vie, ce sens d'une profonde potentialité, à redevenir dans le monde un pouvoir créateur, voire même un pouvoir prédominant. Alors, today I finish la Renaissance de l'Inde, le chapitre 1, les fondements de la culture indienne de Sri Aurobindo, traduit en français par un disciple de l'ashram. Alors je remercie infiniment aussi le traducteur de ces fondements de la culture indienne. C'est merveilleux que cette traduction ait pu être faite en français. Merci Sri Aurobindo, merci Mère, merci Priya, Ganga Lakshmi.
This is Oroville Radio, Voices from the City of Dome.